Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, ô roi des rois, oui, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père céleste, prince de la paix, sauveur de gloire. C'est par grâce que tu nous as sauvés, Seigneur, et c'est par grâce que nous pouvons chanter et te célébrer à cette heure. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous avons choisi de te suivre et de te servir. Et nous allons passer l'éternité avec toi, Seigneur. Merci, merci. Sanctifie ta parole pour nous maintenant, Seigneur. Ouvre nos cœurs, aide-nous à comprendre ta parole et qu'elle soit pour nos vies, enseignement, correction. Ô mon Dieu, nourriture pour nos âmes. Merci, Jésus. Ta parole est la vérité. Amen. Nous lirons... Premièrement, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, 31 et 32, il est écrit. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Nous lirons encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit par « Christ » ou « Oint ». Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui traduit veut dire « Pierre ». Nous avons déjà parlé passablement dimanche dernier sur ces mêmes passages. Et nous allons essayer de creuser plus profondément dans cette personnalité qui s'appelle Pierre, cet homme. Cet homme. Jésus est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Il ne change pas, il est éternel. Ce qui était vrai dans le passé reste vrai aujourd'hui et sera vrai demain. Ce qu'il a enseigné autrefois, il l'enseigne aujourd'hui et sera encore bon demain. Sa parole, il la prononce, elle demeure, elle ne change pas. Les hommes changent, les civilisations changent, les méthodes changent, les techniques changent, la connaissance change. Dans notre monde, tout change, même la religion change, les doctrines changent, mais Jésus ne change pas, et la doctrine fondamentale de la parole de Dieu demeure éternellement. La vérité ne peut jamais être double. La vérité est toujours unique en elle-même. Il n'y a pas deux vérités, il n'y en a qu'une. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Mais les hommes ne savent pas ce qu'est la vérité. C'est comme Pilate, en ce jour, lorsque Jésus se tenait devant lui, et qu'il disait, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Il a dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» La vérité, ce n'est pas ma religion, la vérité, ce n'est pas ta religion, la vérité, ce n'est pas une doctrine humaine, la vérité, ce n'est pas un système humain, la vérité est une personne inchangeable, Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. La vérité est une personne. Il est celui qui ne change pas, il est celui qui est éternel. Mais qui est venu dans le monde pour tout changer, qui est venu dans le monde pour tout bouleverser. Jésus ne change pas, mais Jésus change les choses. Il est venu pour changer les choses. Il a dit à Pierre en ce jour-là, nous avons médité déjà là-dessus dimanche dernier, « Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous, tous les 12 ». Il vous a réclamé pour vous cribler. Il est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie de chacun, toutes sortes d'épreuves, mais il y a aussi l'épreuve de l'épreuve qui est plus forte que l'autre. Cribler. Satan a voulu vous cribler, vous saturer d'épreuves, de problèmes, de difficultés, de comment, de pourquoi. Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous tous, les 12. Mais j'ai prié pour toi. Après avoir parlé de façon générale pour les 12, il revient particulièrement à Pierre. Il individualise ce qu'il dit. J'ai prié pour toi, Pierre. Bien sûr, je prie et j'ai prié pour tous les 12. Mais j'ai particulièrement prié pour toi. La voix des autres est plus forte que la tienne. Tu es faible. Tu n'es pas encore suffisamment ancré. Ta foi est encore chancelante. Je n'empêcherai pas le crible de passer sur toi. Je n'empêcherai pas que toi, tu sois secoué de toutes parts et éprouvé. Il faut que tu passes à travers le crible. Car malgré tous mes avertissements, malgré tout mon enseignement, tu n'as pas encore compris et tu crois plus en toi-même et dans tes capacités et dans ta bonne volonté qu'en moi. Tu ne te connais pas, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Mais ça, tu ne le sais pas encore et tu te confies en toi-même et tu t'affirmes comme étant l'homme fort qui peut. Capable. Non, tu n'es pas capable. Certes, tu as des qualités, mais ces qualités ne sont rien si moi je viens à ton secours. Je n'empêcherai pas que tu passes par le crible. Il faut que tu y passes, il faut que tu sois brisé, il faut que tu sois humilié, Il faut que tu comprennes qui tu es afin de devenir ce que je veux que tu sois. Et ce n'est qu'à travers le crible que tu pourras prendre. Mais sache que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Qui est donc Pierre? Quel genre d'homme est-il pour qu'il en soit parlé de la sorte, pour que Jésus fasse particulièrement une attention à lui? Parce que il est clair dans ce qu'il a dit. Ici, Pierre n'a rien compris. Parce qu'il lui dit, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, donc tu n'es pas à moi maintenant, mais un jour tu reviendras à moi, tu étais à moi, tu t'es séparé, tu reviendras. Maintenant que je parle, tu n'es pas vraiment à moi. Il n'a rien compris, Pierre. Un homme qui aurait compris, un homme au cœur humble, aurait fondu en larmes. « Seigneur, que veux-tu dire? Je désire être à toi !» Mais il est aveuglé par son orgueil, sa suffisance, par lui-même. L'obstacle, c'est sa chair. L'obstacle, c'est son moi. Essayons de voir qui est Pierre. En tout cas, Pierre, c'est un homme, et rien de plus qu'un homme. Rien de plus. Non, ce n'est pas sur Pierre que Christ a bâti son Église, contrairement à ce que certains disent. Ce n'est pas sur Pierre. Si c'était sur Pierre, elle serait bien chancelante, cette Église. Cette Église n'est pas bâtie sur une pierre qui a sa place dans l'Église, certes, mais elle est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ. Il lui avait dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Oui, sur ce roc, je baptiserai son Église. Et toi, tu es une pierre qui rentrera dans cet édifice. Essayons de voir quel genre d'homme il est. Lorsque Jésus l'a rencontré pour la première fois, il a connu exactement qui il était. Et lorsqu'il l'a vu, son discernement lui a fait voir le genre d'homme pour lequel il était venu dans ce monde. Jésus lui a dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Cephas, ce qui veut dire Pierre. » Nous voyons dans la parole de Dieu bien souvent, Dieu a changé le nom des gens. Abraham a été changé en Abraham, Sarah en Sarai. Nous voyons Paul, Saul de Tarse, il a été changé en Paul. C'est justement ce que Jésus est venu faire. Lorsqu'on voit la personnalité de ces hommes avant qu'ils aient rencontré Jésus, nous aurions dit, non, non, impossible, impossible. Mais Jésus a passé, alléluia. Et c'est ça qui fait la différence. Jésus a connu Simon dès qu'il le vit. Il a vu un homme imparfait, un homme plein de défauts, un homme plein d'imperfections, incapable de se changer lui-même. Plein de défauts, plein d'imperfections, mais aussi avec des qualités. Nous voyons que Pierre est le premier partout. Chaque fois que la Bible, chaque fois que les évangiles nous donnent une liste des apôtres, Pierre est toujours en tête, le premier de liste. Le premier à parler. Chaque fois que Jésus pose une question, voilà Pierre qui saute. Il laisse même pas le temps aux autres de parler. Rapide, impulsif, le premier à parler. Bien souvent, il ferait bien de réfléchir avant de parler. Comme on dit, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Mais ça, il ne l'a pas encore appris. Rapide à parler, et bien souvent il dit des bêtises. Il donne son opinion, il déclare, il prend l'initiative, il dirige. Il est impulsif. Oui. Regardez-le sur ce lac. Ce lac de Galilée, ils étaient dans leur barque avec les autres disciples. Jésus était resté sur le rivage. Et la Bible nous dit qu'il a passé quelque temps à prier là, seul à seul. Les disciples sont là à ramer sur le lac contre le vent était contraire, les vagues étaient assez hautes et ils luttaient pour traverser. La nuit était déjà avancée. Et subitement, alors qu'ils étaient en train de s'encourager à ramer contre le vent, subitement, ils virent une forme marcher sur l'eau. La peur les a saisis. Qu'est-ce donc ? Un fantôme ? Ils crièrent même. Jésus dit, non, ne craignez pas, c'est moi. Jésus marchait sur les eaux. Et Pierre, toujours lui. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi sur les eaux. Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Et Pierre, Jésus lui dit, viens Pierre, viens. Et Pierre fit ce que jamais, aucun homme n'a jamais fait. Il enjambe le bateau et il pose son pied sur l'eau. Et ça tient. Pierre, es-tu sûr que c'est Jésus? Es-tu sûr? Les autres le regardent, les yeux grands ouverts. Oui, c'est Pierre ça. Ça tient! Il passe la deuxième jambe, il fait un pas, il fait deux pas, il regarde à Jésus, trois pas, quatre pas, il s'éloigne, les autres le regardent. Jamais on a vu chose pareille! Mais le vent souffle, il y a des tourbillons, les vagues s'élèvent autour de lui. Il quitte des yeux Jésus, il regarde autour de lui. La peur le saisit, il enfonce, Seigneur, sauve-moi! Jésus étend la main. Quelle expérience! Il est courageux, Pierre. Il ne craint pas de se lancer dans des aventures, entre guillemets, pour Jésus. Il ose. Bien sûr, Jésus lui a dit, « Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu peur ?» Homme de peu de foi, d'accord, peu de foi, mais cette foi était active et il a marché sur les eaux. Les autres ne sont pas sortis du bateau. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à sortir du bateau, à faire l'impossible. Pierre, il est de ceux-là. Magnifique, magnifique. Il est courageux, il ose, plein d'audace. Il est impulsif. Et dans son impulsivité, il dit aussi des bêtises. Il dit des bêtises. Un jour, il est sur la montagne de la Transfiguration. Sur cette montagne, lorsque subitement, Jésus est transformé en gloire. Il le voit resplendissant comme le soleil dans sa plus puissante clarté. Et là, il voit Moïse et Élie. Moïse, le représentant de la révélation de Dieu aux hommes par la loi. Élie, le représentant de la révélation de Dieu aux hommes par les prophètes. Et Jésus, l'accomplissement de la loi et les prophètes entourés de gloire. Oh, quelle vision extraordinaire, ils sont là, sans bouger. Lui, Pierre, avec Jean. Il regarde, et Pierre, dans son impulsivité, son manque de réflexion, sort une bêtise. Il dit, alors que Jean et Jacques sont là, regardent et ne se
ferme la bouche, se sent incapable de parler. Il dit, « Seigneur, permets que je monte ici trois tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. » Quelle sottise! Quelle bêtise! Quelle bêtise! Et nous voyons que les autres évangélistes qui ont écrit, ils ont dit, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais ça, c'est le caractère de Pierre. Pierre est un bagarreur. Il a l'habitude de se battre. C'est un pêcheur depuis son enfance. Il est là sur le lac de Galilée, c'est un lac où il y a beaucoup de poissons, c'est vrai, mais où, lorsqu'il y a des coups de vent, la navigation est très dangereuse. L'eau n'est pas très profonde et le moindre vent soulève les vagues. Et bien des fois, il était pris dans des tempêtes. Il a risqué même pour sa vie. Il s'est battu contre le vent, battu contre les vagues. Il s'est affronté le danger, son caractère a été forgé là. La lutte pour la vie, c'est un lutteur. Il n'abandonne pas facilement. Il a une personnalité séduisante, une personnalité attirante. Et puis, il a aussi un discernement spirituel extraordinaire. Lui, toujours lui. Dans Jean 6, 68, il dit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est beau ça, c'est beau. Il a prouvé son dévouement et son obéissance. Lorsque Jésus, au début de son ministère, cherchait ceux qui porteraient son message, ceux qui seraient avec lui pendant un temps pour les former, pour être la base de cette église qu'il allait fonder. Il est allé là au bord du lac et il a vu ces hommes et il a discerné qu'il pouvait les utiliser. Il y avait Pierre parmi eux. Et quand le maître l'a appelé, aussitôt, il a dit, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Or Pierre, c'était un homme qui avait de l'initiative, courageux, il avait une petite pêcherie, il avait des associés, ils avaient des filets ensemble, ces longs filets, ces grands filets coûtent cher. Donc on s'est associés ensemble pour cela, on partage les bénéfices. Mais Jésus a passé sur sa route, et quand Jésus l'a appelé, « Oui Seigneur, il laisse tout, son père, ses parents, ses associés, tout, sa part dans le commerce, tout !»« Oui Jésus !» Il n'a pas dit Jésus, « Non, d'accord. » Seigneur, mais tu sais, on ne se lance pas dans l'aventure comme ça. Qu'est-ce que tu nous garantis? Seigneur, quel sera mon salaire? Je sais bien, je veux bien travailler pour toi, mais enfin, il faut que je vive, Seigneur. Il faut que je vive. Et quelles sont mes garanties sociales? Peut-être que ces choses ne veulent pas dire grand-chose ici, dans notre Zaïre d'aujourd'hui, mais dans les pays capitalistes, je vous assure que les garanties sociales, c'est un gros paquet, et les gens se défendent pour les garder, leurs garanties sociales. Aïe, aïe, aïe! Sécurité sociale et compagnie. Mais dis donc, abandonnez ça, jamais de la vie, mes vieux jours, ma retraite, ma subsistance, et patati et patata. Il faut des garanties sociales. Et vous savez, il y a de ces pasteurs qui sont là-bas des gros gâtés. Il faut toutes les garanties sociales. Et combien de ces jeunes gens, quand ils sortent de l'école de théologie, avec un bon diplôme entre les mains, et puis bien habillés et tout ça, et qu'ils cherchent à être pasteurs dans une des églises, ces églises où on prêche toute la vérité, ils veulent d'abord savoir quelles sont mes garanties sociales. Quel sera mon salaire? Oh, vous voyez peut-être pas ça ici au Zaïre. Non, mais pourtant, le même esprit, certaines fois, est quand même là. Le même esprit est quand même là. Dieu cherche des hommes qui sont prêts à tout quitter, à tout laisser, garantie sociale ou pas. Croyez-moi que moi qui vous prêche ici, j'ai une garantie sociale. Mais je sais pour qui je travaille. Et ma meilleure garantie sociale, c'est le roi des rois pour lequel je travaille. Alléluia. Beaucoup à mon âge ont leur maison, ont leur assurance. Moi, je vis dans une maison qui ne m'appartient pas, mais je loue le Seigneur parce que je suis bien dans cette maison. Je n'ai pas de maison à travers le monde ou que ce soit, peu importe. Si un jour j'ai besoin d'une maison, il me la donnera. Pour l'instant, depuis que je suis ici, je suis dans une maison. Elle n'est pas à moi, mais elle est comme si elle était à moi. Alors, ne possédant rien, j'ai tout. Alléluia. Pourquoi donc? La Jeep avec laquelle je circule, elle n'est pas à moi. Bien sûr qu'elle n'est pas, c'est pas mon bien personnel. Je n'ai pas le droit de la vendre si je veux la vendre. Mais elle roule bien, alors je roule avec. Elle est comme si elle était à moi. Merci Seigneur! Il me donne l'outil pour le travail. C'est un outil de travail et c'est tout. Qu'ai-je à me plaindre? Chaque jour, il pourvoit mes besoins. Frères et sœurs, je sais que nous sommes dans des grandes difficultés ici au Zaïre, au point de vue social et autres. Les choses sont plutôt chancelantes. Et pourtant, bien souvent, le même esprit est là dans le cœur des hommes et des femmes. Ma famille, mon futur, mes garanties, mes vieux jours, ma retraite. Et des fois, on va faire des enfants, enfants sur enfants, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants et plus, alors qu'on peut même pas les élever comme il faut et leur donner ce qu'ils ont droit, tout simplement, pour avoir une garantie quand on sera vieux pour que les enfants... Aïe, 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 aïe. Pitié pour les enfants. Pitié. Moi, je veux pas que mes enfants doivent prendre soin de moi quand je serai vieux. Je suis pas vieux maintenant, hein. Mais non! Mes enfants ont leurs propres obligations. Ils ont leurs propres enfants, leur propre foyer. Celui qui prendra soin de moi, c'est celui qui m'a appelé et auquel j'ai répondu. Non, je ne crains pas. Je ne crains pas. Je ne vais pas demander à mes enfants qu'ils me donnent à manger, qu'ils me donnent le vêtement. Je ne veux pas le faire. Eux, ils ont leur propre charge. Je vais demander à celui qui m'a appelé. Et je sais que lui, il est à la hauteur de ses responsabilités. Si je n'ai pas fait ce qu'il voulait que je fasse, ah! J'ai le droit de craindre. Mais si j'ai fait ce que il a voulu que je fasse, eh bien Dieu est à la hauteur de ses responsabilités jusqu'au dernier jour du souffle de ce vieux corps qui retournera à la poussière. Alléluia. Voilà. Jésus a trouvé des hommes prêts à le suivre au bord du lac de Galilée. S'il était allé dans les écoles des rabbins, eh bien, mes frères, ils auraient demandé quel est le salaire que nous allons recevoir, quelles sont nos garanties sociales, qu'est-ce que vous allez nous donner? Bon, on va travailler avec toi, d'accord, mais combien de costumes tu vas nous donner par an? Combien de chaussures par an? Comment allons-nous manger? Et le transport? Et ceci? Et cela? C'est ça qu'ils auraient demandé. Non, Jésus est allé au bord du lac, parce que là, il a su qu'il trouverait le genre d'homme dont il aurait besoin. Des hommes obéissants qui se confieraient à lui. Alléluia. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Nous voyons que Pierre a de belles qualités, c'est pas vrai? Il est souvent tendre, il est affectueux. Il a une magnifique attitude vis-à-vis du maître. Il a confessé Christ par deux fois. Lorsque Jésus leur a posé la question, dites-moi qui je suis. Que dit-on que je suis? Alors, certains de ses disciples ont dit, tu es un des prophètes, Les gens disent que tu es un des prophètes, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que, etc., etc. Oui, mais vous, qui dites-vous que je suis? Pierre, toujours Pierre. Il ouvre la bouche et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Merveilleux. Merveilleux. Et dans Jean 6, 69, il est dit, nous avons cru que c'est toi, le Christ, le Saint de Dieu. Belle confession. Jésus a vu ses qualités. Il a vu ce potentiel qui était dans cet homme. Il a vu que Pierre, à l'opposé de Judas, l'aimait. L'aimait d'un grand amour, d'un vrai amour. Judas, non. Non, il n'avait pas d'amour pour Jésus, Judas. Il était vendu à la cupidité, Judas, et à la convoitise. Et c'est par là que Satan est rentré dans son cœur. Il n'a pas d'amour pour Jésus, Judas, mais il est cupide et il convoite. La convoitise, la cupidité, la Bible nous dit que c'est une idolâtrie. C'est comme si vous vous mettez à genoux devant cette idole taillée dans un morceau de bois ou dans un morceau de pierre. Et c'est par là que Satan est rentré dans son cœur. Non, Pierre n'a pas cela. Il n'a pas de cupidité ni de convoitise. Un homme cupide n'aurait pas laissé ses filets, ses barques comme il l'a fait. Pierre est riche en contradictions. Pierre est présomptueux. Quand Jésus parle de sa mort, quand Jésus parle à ses disciples qu'un jour il sera crucifié sur le bois pour la rémission des péchés du monde entier, il n'y arrivera pas. Mais Jésus se retourna et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. » Oh, il l'appelle Satan. Pierre lui-même n'est pas Satan, non, mais les paroles qu'il a prononcées sont inspirées par Satan, et Jésus l'a reconnu. Oui, il peut y avoir de belles paroles, de belles intentions dans cet homme, mais il n'est pas encore sous le contrôle du Saint-Esprit comme il devrait l'être. La chair est encore là, et à travers la chair, Satan parle. Toi, mourir, Seigneur, non, 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 ne parle pas comme ça, je t'en prie. Qui es-tu, Pierre, pour reprendre le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers? Qui es-tu pour lui parler de la sorte? Arrière de moi, Satan! Dit Jésus. Nous voyons que dans cette dernière soirée, alors que Jésus est avec ses disciples et que dans quelques heures il va être traduit devant cette justice inique, devant le Sanhédrin et devant Pilate, et qu'il sera crucifié. Quelques heures avant, là, il parle à ses disciples ses dernières paroles. Ils prennent la communion ensemble. Et Jésus, à un moment donné, a pris un bassin et y a mis de l'eau. Il a pris un linge et ses seins de linge. Et puis, il s'est mis aux pieds des disciples pour leur laver les pieds. Ils sont là en train de regarder. Jean ne dit rien, il est confondu. Matthieu ne dit rien, il est confondu. Ils ne comprennent pas, mais ils laissent faire Jésus. Ils sentent que quelque chose de spécial se prépare. Mais quoi? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire là? Oui, c'est vrai. Il veut nous prouver, nous montrer qu'il est le vrai serviteur. Et que nous, si nous voulons être grands, il faut servir d'abord. Jésus arrive à Pierre. Et il veut lui laver les pieds. Pierre lui dit, non Seigneur, toi, me laver les pieds? Jamais, jamais! Ah, Pierre, tu ne veux pas que je te lave les pieds? Mais tu n'auras pas de part avec moi dans mon royaume, alors. Oh non, Seigneur, non, non, alors lave-moi la tête, les pieds, tout. Voilà, Pierre. Voilà, Pierre. Celui qui avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est la confusion dans Pierre. Il n'est pas encore contrôlé par l'Esprit. Il a de la bonne volonté, mais mon ami, il faut plus que de la bonne volonté pour suivre Jésus, beaucoup plus que ça. Il y a des gens qui sont enthousiastes, mais l'enthousiasme ne suffit pas pour suivre Jésus. Il y a des gens qui viennent, « Oh oui, cette parole est bonne. Oh, j'aime bien, ces gens chantent, c'est bien. Oh, c'est formidable, moi je veux suivre ça. Oh, ils sont pleins d'enthousiasme, enthousiasme. » Mais l'enthousiasme ne suffit pas pour suivre Jésus. Bientôt, vous allez vous casser le nez. L'enthousiasme, la bonne volonté ne sont pas suffisants. Nous voyons plus tard que Pierre aussi, en cette même soirée, Pierre, nous voyons un trait de son caractère qui n'est pas tellement joli. Il se met en avant, il veut se faire valoir. Pierre dit, « Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?»« Seigneur, Seigneur, en tout cas tu te souviens, j'ai laissé mes barques, j'ai laissé mes filets. » Je me suis consacré au travail, Seigneur. J'étais suivi partout, partout. Ce que tu disais de faire, je l'ai fait. Mais toi, tu t'en vas maintenant. C'est bien ce que tu dis, non? Bon, tu dis que tu vas souffrir, mais je comprends pas. Je comprends pas encore ce que tu vas raconter. Mais si tu pars, et nous, alors? Quand même, nous t'avons servi. Tu vas pas nous laisser comme ça, nous abandonner. On a droit quand même à quelques avantages. Il n'a rien compris, Pierre, encore rien, rien, rien. Et Jésus savait, il avait discerné tout cela. Oh, Pierre est lent à comprendre. Il est lent à comprendre les vérités les plus profondes. Dans Matthieu 15, 15 à 16, il est dit, Pierre prit la parole et lui dit, « Explique-nous cette parole. » Et Jésus lui dit, « Vous êtes aussi sans intelligence ?» Bon, que les gens du dehors ne comprennent pas, d'accord, ils ne me connaissent pas, ils ne sont pas avec moi, comme vous tous les jours, je vous ai enseigné toutes ces années. Vous m'avez suivi, et tu en es encore là, toi, Pierre ? Tu es donc sans intelligence, tu n'es qu'incapable de comprendre la profondeur de ces vérités qui concerne le royaume éternel. Homme naturel, mélange de bon et de mauvais, n'est-ce pas l'image de chacun de nous, mes amis? Nous avons tous un degré de bon et de mauvais. Certaines fois, il y a beaucoup de mauvais, peu de bon, d'autres fois, beaucoup de bon, peu de mauvais. Mais un mélange, une synthèse, là, je ne sais pas, de bon et de mauvais. Oui. Voilà l'homme naturel, l'homme que Jésus est venu changer. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a de bon en toi, tu t'en glorifies. Et au lieu que ce soit bon, ça devient une pierre d'achoppement, un moyen de t'enorgueillir. Moi, je ne suis pas comme les autres, en tout cas. Moi, je ne suis pas capable de faire ce qu'il a fait. Je ne le comprends pas, ce gars-là. Moi, faire ça, non, jamais, jamais, jamais. Je suis bien plus noble que ça. J'ai des principes dans la vie. Voilà. D'accord, tu ferais pas ça. Mais maintenant, tu souilles tes qualités par ta vantardise et ton orgueil. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'il n'y a rien de bon à l'homme. Rien, absolument rien. Toute notre justice c'est quoi? Ce sont ces choses bonnes. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Voilà ce que nous dit Ésaïe. Oui, Pierre était présomptueux. Dans Matthieu 26, 35, il est dit, Pierre parle, et il dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Tu peux être une occasion de chute pour Jean, pour Matthieu, pour Jacques, mais pas pour moi, Seigneur, moi je te connais en tout cas. Présomptueux. Après ce dernier repas dans la chambre haute, ils sortirent et ils allèrent au jardin de Gethsémané. Les disciples sont restés dans un coin. Jésus a pris toujours le même trio. Pierre, Jean, Jacques, les trois. Il dit, vous, venez avec moi. Et il s'avance plus avant dans le jardin et il leur dit, restez ici, priez, restez priez là. Moi, je vais un peu plus loin, mais priez avec moi. Et Jésus, là, est en agonie. Il est attaqué par les puissances sataniques, par les puissances de démons qui remplissent cette place pour le harceler. Et sa lutte est tellement intense qu'il sue des gouttes de sang qui sortent par les pores de sa peau. Au bout d'un instant, il se lève et il va voir le trio qui est là en train de ronfler. Ils dorment. Il est dit qu'il revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, tous les trois dormaient, mais il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller une heure avec moi ?» Toi, vantard, toi qui veux donner ta vie pour moi, toi qui connais tout, toi qui sais tout, tu ne peux pas veiller une heure avec moi. Voyons que, après, Jésus s'est rejoint au groupe, et alors qu'ils étaient là, ils virent tous ces hommes qui arrivaient avec des bâtons, des lances, des épées, et ils veulent arrêter Jésus. Pierre, il avait pris une épée. Vous voyez, c'est pas Jean qui a pris l'épée. C'est pas Jacques qui a pris l'épée. Ce n'est pas Matthieu qui a pris l'épée, c'est Pierre. Moi, je suis le garde du corps de Jésus. Et quand il a vu qu'on voulait l'arrêter, il sort son épée. Et il attaque carrément le serviteur du souverain sacrificateur, Malchus, c'était son nom. Et au dernier moment, cet homme voit cette épée qui flamboie là au clair de lune, à la lumière des lanternes, et qui s'abat sur lui, fait un geste rapide pour l'éviter. Et au passage, l'épée lui tranche l'oreille. Jésus reprit Pierre avec sévérité. « Remets ton épée dans son fourreau, je te l'ordonne. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Celui qui tue par l'épée, périra par l'épée. Waouh ! C'est comme un caillou qui tombe sur la terre de Pierre. Devant tous, il est honteux. Jésus ramasse cette oreille coupée, il la remet et il guérit cet homme qui était son ennemi. Pierre est de mauvaise humeur. Il est fâché. Les disciples s'éparpillent. Marc, qui était un jeune homme à ce moment-là, et il avait un pagne autour de lui. On veut l'attraper, il arrache son pagne, il perd son pagne, il s'en va, il court dans le noir, tout nu. C'est ce que nous dit la Bible. Jean, Matthieu, tout cela, ils suivent Jésus, plus ou moins de près. Pierre, il est là dans le noir, laissé tout seul alors que tout le monde s'éloigne. Il shoot les cailloux nerveusement, méchamment. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Comment il va se sortir d'affaire. Il veut même pas que les autres s'occupent de lui et qu'on l'aide. Moi, j'ai voulu le défendre et il me reprend devant tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il suit de loin. La Bible nous dit, il suit de loin. De mauvaise humeur. Et il arrive là, en bon dernier, à la cour du souverain sacrificateur. Il y a des gardes qui sont là. Il y a une servante qui est juste à la porte. Il ne peut pas rentrer, personne ne le connaît. Mais Jean, qui était connu du souverain sacrificateur et des gens qui étaient là, il parle à la servante, « Laisse-le rentrer, il est des nôtres. » Alors elle ouvre la porte. « Ah, toi, tu es de ces gens-là, rentre. Moi, de ces gens, jamais. Je n'en suis pas. » Il est de mauvaise humeur. Et il s'approche près du feu. Là, il y a les gardes qui sont là, les gardes armés et les serviteurs. C'était pendant la nuit, très, très, très tôt le matin. Il y en a un qui lui dit, alors qu'ils sont en train de se chauffer autour du feu, qui lui dit, « Mais moi, je te connais. » Il était de la famille de celui auquel il avait coupé l'oreille. « Tu es celui qui a tiré l'épée dans le jardin. »« Quoi ? Moi, tirer l'épée ? Ah ! Je ne sais pas même qui est cet homme. » Au bout d'un moment, le coq chante. Ils sont là à bavarder. De quoi, je ne sais. Il était en mauvaise compagnie. Il n'était pas avec ses frères. La servante, au bout d'un moment, lui dit, « Mais dis donc, quand je t'entends parler, tu parles avec l'accent du nord de Galilée. Certes, Tu étais avec cet homme, tu es de ceux-là. Quoi donc, qu'avez-vous tous à dire que je suis de cette bande-là? Je ne connais pas cet homme. Et il commença à jurer et à faire des imprécations, comme autrefois lorsqu'il était païen sur le lac en train de lutter contre le vent et la tempête. Et juste à ce moment-là, le coq chanta une deuxième fois. Et Jésus passait là, à quelque distance, entouré des gardes. Leurs yeux se sont croisés, il s'est souvenu. Jésus avait dit, lorsqu'il l'avait rencontré pour la première fois, « Tu es quoi ? Tu es un lâche ! Tu es un vantard ! Tu es un présomptueux ! Tu es un orgueilleux ! Voilà ce que tu es ! Tu es un impur ! Tu es un voleur ! Tu es un occulte ! Tu es un menteur ! Tu es un adultère ! Tu es un idolâtre ! Tu es un blasphémateur. Tu es incapable de suivre ton maître. Tu es un faible malgré tes apparences de bravoure. Voilà ce que tu es. Mais je ne peux te changer que si d'abord tu te reconnais tel que tu es. Tu es incapable de faire la volonté de Dieu. Mais Tu seras une nouvelle créature, tu seras un homme changé, tu seras un homme juste, tu seras un homme droit, tu seras un homme honorable, tu seras un homme fidèle, tu seras un homme fort, tu seras un homme saint, tu seras un homme humble, tu seras une nouvelle créature. Voilà pourquoi je suis descendu dans ce monde. Car toute votre justice n'est que comme un vêtement souillé, déchiré. Tu seras une nouvelle créature. Pierre a été changé. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a voulu aller à Golgotha. Il entendit le coq chanter une deuxième fois. Il aperçut le regard de Jésus. Et immédiatement, il était brisé en lui-même. Toute sa colère a disparu. Toutes ses réactions charnelles et vaines ont disparu. D'amour propre, il s'est levé. Il est parti dans le noir avec des larmes qui coulaient de ses yeux et qui se perdaient dans sa barbe. Des sanglots profonds qui sortaient du plus profond de sa poitrine. Oui, Pierre, il faut passer par le brisement. Combien d'hommes et de femmes n'ont jamais passé par le brisement? C'est pour cela qu'ils réagissent toujours comme Pierre avant la croix. Il pleura amèrement. Voilà le commencement du changement de Pierre, les larmes de la repentance. Jésus avait dit, j'ai prié pour toi. Alléluia. J'ai prié pour toi. Si Jésus n'avait pas prié pour lui, peut-être Pierre n'aurait jamais été brisé. Oh, l'amour de Jésus. Il aime ceux qui sont tombés. Nous, quand nous voyons quelqu'un qui tombe, nous les jugeons durement. Nous les condamnons. Nous leur tournons le dos. Mais Jésus prie pour eux. Il est, selon les Proverbes 18-24, l'ami plus attaché qu'un frère. Alléluia. Il a vu le bon et le mauvais de Pierre. J'ai prié pour toi. Merci Jésus. Je sais que tu as dû prier pour moi. Je sais que tu pries pour beaucoup d'entre nous dans ce lieu. Tu pries, Seigneur. Il y a longtemps que j'ai prié pour toi. Car je te connaissais. Et j'en ai parlé au Père. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai commencé à prier pour toi et j'en ai parlé au Père. Seigneur, Donne-nous ce genre d'amour envers les frères et sœurs que nous voyons chanceler autour de nous. Disons-leur, je prie pour toi, j'ai prié pour toi, avec amour, pas avec un accent accusateur. Jésus ne lui a pas fait la morale. Jésus ne lui a pas fait des discours, tu devrais pas, tu devrais, pourquoi, etc. Non, Jésus a prié pour lui. Nous devons porter ses frères et ses sœurs au trône de la grâce et supplier pour eux afin que le crible, lorsqu'il passe à travers le crible comme Pierre a passé, que le crible ne leur fasse pas perdre la foi et que leur foi devienne intacte. Dans Jean 17, versets 9, 11 et 15, il est dit, c'est pour eux que je prie, c'est Jésus qui priait cette prière. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les garder du monde. Jésus prie pour toi, frère, et il prie pour moi. Tu es, mais tu seras. Tu seras changé. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour toi. Si tu es debout, ce n'est pas à cause de toi et de ta force et de ta capacité et de ta force morale. Non, c'est parce que j'ai prié pour toi. C'est pourquoi tu es debout. Pierre a failli misérablement, c'est vrai. Mais il a gardé la foi, car Jésus a prié pour lui. Comment donc garder la foi? Il a renié son maître. Est-ce garder la foi? Oui, d'accord, il l'a renié, mais il a pleuré amèrement. S'il avait perdu la foi, il n'aurait pas pleuré amèrement. Il n'aurait pas regretté. Je puis m'imaginer Pierre s'éloignant de la place en sanglotant. Alors que Jésus sort et qu'il porte sa croix, alors qu'il monte à Golgotha et qu'un homme est chargé de prendre sa croix à sa place, alors qu'avec brutalité on le jette sur le bois et on perd ses mains et ses pieds, alors que la couronne d'épines est plantée sur son front, alors que cette croix est élevée par les soldats romains et qu'elle tombe lourdement dans le trou qui a été fait là pour qu'elle tienne debout, Pierre n'est pas tout près comme Jean et les autres apôtres. Il n'est pas au pied de la croix, là, non. Pierre est loin, là-bas, derrière la foule, les larmes qui lui coulent sur le visage en abondance. Il regarde ces trois croix, là, à l'horizon, qui se détachent sur le ciel. Et il sait que sur celle du milieu, il y a celui qu'il a pourtant tellement aimé, mais qu'il a renié. Il avait raison. Il savait, je suis un misérable, mais je l'aime quand même. À qui d'autre irai-je si ce n'est à lui? Le voilà pendu au bois parce que je l'ai renié. Qui suis-je? Mais il se souvient de cette parole du maître en ce soir. Il se souvient qu'il lui avait dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Oh! Il a prévu mon retour, donc. Donc, il y a le pardon aussi pour moi. Donc, il y a encore un ministère pour moi. Même si je l'ai renié, il y a possibilité de réhabilitation. Je puis donc encore aider les autres. Oui, Pierre. Et tu pourras mieux les aider qu'avant. Parce que maintenant, tu te connais toi-même. Maintenant, tu te connais toi-même et tu ne vas pas t'appuyer sur toi-même et sur ton intelligence et ta sagesse, mais tu vas t'appuyer sur lui. Nous le voyons. Nous le voyons par la suite. Il est le premier à arriver au tombeau, le tout premier. Il court en avant, son corps brûle. Il y a un mélange de regrets, de larmes, de souffrances. Un mélange! Il a espoir quand tu reviendras à moi. Oui, Jésus, je veux revenir à toi. Je veux pas être loin de toi. Je ne veux pas continuer à te renier. Oui, Jésus, je veux revenir à toi. Il court là au tombeau. Il est le premier à arriver au tombeau et il le trouve vide. Il est là lorsque Jésus apparaît au milieu d'eux. Il est là, il n'a pas abandonné. Il est là quand Jésus est monté au ciel dans la gloire. Et il devient même le porte-parole de Dieu au jour de la Pentecôte. Et quel sermon! 3000 âmes se sont converties. Jésus, tu es, mais tu seras à cause de Golgotha. Baissons la tête. Seigneur, nous nous reconnaissons dans Pierre. Nous nous reconnaissons dans Pierre et nos cœurs sont saisis au-dedans de nous-mêmes à l'ouïe de ce récit. Combien de fois nous t'avons renié? Combien de fois nous avons eu honte de toi, Seigneur? Combien de fois, ô Dieu? Il est vrai, Seigneur, mon Dieu, que nous avons essayé de nous excuser par les circonstances. Mais Seigneur, donne-nous de faire face à notre responsabilité, comme Pierre, et de pleurer amèrement. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Nous ne voulons pas, ô Dieu, nous ne voulons pas te renier. Nous voulons te servir encore, mon Dieu, s'il te plaît. Tu sais ce que nous sommes, des vantards, des orgueilleux. De temps en temps, nous avons des bonnes paroles et nous te reconnaissons comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais Seigneur, ces bonnes choses en nous sont souillées par le péché. Nous apportons tout au pied de la croix. Donne-nous une vision de Golgotha, Seigneur, comme Pierre l'a eu en ce jour. Si seulement, Seigneur, nous avons la vision de Golgotha, nous comprendrons alors que nos péchés ont été portés là, sur le bois, par toi, Jésus. Ô, pardonne, Seigneur. Ô, donne-nous, Seigneur, d'être changés. Tu es, mais tu seras. Il y a espoir, car auprès de toi, il y a pardon. Frères, sœurs, vous avez entendu cette parole, elle s'adresse à chacun de nous. Et je ne voudrais pas clôturer sans faire cet appel. Tu as renié ton maître. Tu l'as renié plus d'une fois. Ne veux-tu pas revenir en pleurant à ses pieds? Contemple cette croix sur laquelle il est mort pour toi. Regarde-la, il a été percé et couronné d'épines pour toi. Il a pris ta lâcheté. Il a pris ton reniement. Il a pris tes péchés. Viens à lui. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Viens à lui. Qui que tu sois, il t'appelle. Viens à lui. Donne-lui ton cœur, demande-lui pardon pour tes reniements. Tu es peut-être membre d'église avec ta carte de membre dans la poche, mais tu l'as renié cette semaine. Tu l'as renié. Tu as dit, je ne le connais pas. Non, je n'appartiens pas à ces gens-là. Non, je ne suis pas de ce genre-là, je ne suis pas de cette espèce-là. Ami, je t'en supplie. Père, je t'apporte ces amis qui se sont levés maintenant. Je te demande de ta miséricorde, ne les rejette pas, Seigneur, mais reçois-les. Ô mon Dieu, essuie les larmes de leurs yeux, donne-leur de voir Golgotha. S'ils voient Golgotha, ils pleureront, Seigneur, car c'est là que tu as porté leur péché, leur reniement, notre péché, notre reniement, notre lâcheté. Mais Seigneur, tu nous as appelés à toi comme tu as appelé Pierre parce que tu as voulu changer Pierre et tu veux aussi nous changer. Oui, il est possible d'être une nouvelle créature, complètement changée en Jésus. Vous qui vous êtes levés, reprenez vos places.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.